Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet après-midi d'études sur les publics mobilisés dans le domaine des arts et des cultures, dans un rapport politisé à la culture. Donc cette première table ronde est consacrée à l'expérience des publics. Et je vais laisser Nelly Kemener, qui est maître de conférence à l'Université Paris 3, vous présenter les invités et animer ce débat. À toi, Nelly.
Merci beaucoup, Isabelle. Alors, je tenais à remercier très chaleureusement Maxime Servul pour le conseil scientifique de cette journée, à remercier bien entendu Jérémy Desjardins et Isabelle Bastion-Duplex pour l'organisation aussi de cette journée sur la question des publics. Il s'agit ici d'une table ronde qui va parler plus précisément de la critique et de l'expérience des publics. Une table ronde qui propose de revenir sur l'expérience et l'activité critique des spectateurs, spectatrices et la constitution de publics politiques en s'intéressant notamment au domaine du cinéma, des médias, de la culture. On va essayer de faire un peu large, même si on a plutôt des personnes qui sont ancrées dans les études cinématographiques, mais on a aussi Alice Coffin qui aura peut-être un regard aussi plus sur aussi des enjeux parfois médiatiques et journalistiques. L'idée ici est véritablement d'explorer le passage d'une expérience individuelle à une expérience plutôt collective, c'est-à-dire ici le fait que devenir ou participer d'un public, c'est aussi partager des émotions, produire collectivement du sens, mobiliser parfois contre certaines productions culturelles, donc produire de la mobilisation contestataire. Donc tout cela va nous amener à interroger la production aussi de contre-discours ou l'expression de subjectivité qui passe justement par les publics des productions culturelles contemporaines. Le débat s'organisera autour de deux grands moments. Dans un premier temps, nous aborderons plus précisément les productions médiatiques et cinématographiques comme des ressources, alors ressources identitaires, émotionnelles, politiques pour des publics. Des ressources qui impliquent souvent, quand on pense en termes de ressources pour les publics, on pense en termes aussi beaucoup d'identification. On pense aussi potentiellement dans la possibilité que... On envisage en tout cas les productions culturelles comme pouvant amener des formes de déplacement aussi du côté des publics. Et dans un second temps, cette table ronde évoquera davantage le rapport critique que certains publics nouent avec les productions culturelles, médiatiques ou cinématographiques et les types de contestations auxquelles ces lectures oppositionnelles peuvent donner lieu. Alors, pour participer à ce débat, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois intervenantes. Alice Coffin, qui est militante de La Barbe, qui est un groupe d'action féministe, qui est journaliste également, ce qui jouera peut-être dans la discussion. Célia Sauvage, qui est docteur en cinéma, chargée d'enseignement à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Et Geneviève Cellier, qui est professeure émérite en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montaigne. Alors, je propose de commencer ce débat par quelques questions un peu générales sur l'étude des publics, ce qui nous amènera à traiter plus précisément ensuite notre sujet, donc la question des productions culturelles comme ressources. Alors d'abord, Geneviève, vous êtes l'une de celles qui a véritablement développé dans les études cinématographiques les approches socioculturelles, et notamment à défendre, en tout cas c'est comme ça que moi je le lis, à défendre la nécessité de se tourner vers les études en réception. Alors vous l'avez fait notamment à travers l'étude des critiques du cinéma de la Nouvelle Vague, dans un premier temps, et puis plus récemment dans une étude qui porte plus précisément sur la réception ou les publics du cinéma populaire en France dans les années 50. On y reviendra plus précisément, mais la première question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qu'apporte en fait l'étude des publics ou l'étude de l'expérience spectatorielle? En gros, en quoi ça déplace dans les études cinématographiques l'appréhension classique du cinéma qui est beaucoup passée par les approches en esthétique ou les approches sur les auteurs?
Oui, ça change beaucoup de choses, surtout en France. C'est-à-dire que les études cinématographiques françaises sont traditionnellement orientées vers l'étude esthétique d'un panthéon d'œuvres qui en gros s'est constitué progressivement depuis la création des Cahiers du cinéma dans les années 50 et qui vise à transformer le cinéma en un art légitime susceptible de correspondre au panthéon littéraire, au panthéon pictural, musical, etc. Et donc cette orientation dominante des études cinématographiques a entraîné la constitution d'un continent noir, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que le cinéma populaire a disparu comme objet et les spectateurs ordinaires ont disparu comme public. Et donc effectivement, il y a eu des études sur ce qu'on appelle la cinéphilie, c'est-à-dire en fait les formes de réception de l'élite cultivée. C'est l'essentiel de ce qui a été fait en France, que ce soit sur les années 20, les années 50 ou le contemporain. Et donc, effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déplacer le regard sur les goûts des publics des périodes considérées, c'est-à-dire laisser de côté le panthéon, et se demander, bon, alors là, il se trouve qu'on a travaillé pour différentes raisons sur les années 50, mais l'idée, c'est, bon, dans les années 50, quels sont les films qui ont des succès, pourquoi, et est-ce qu'on peut trouver la trace des raisons pour lesquelles les spectateurs de l'époque, et quels spectateurs, aimaient ces films qui, en fait, ont à 80% disparu même des histoires du cinéma. Hein. Puisque les histoires du cinéma académique se sont faites sur le principe de la valorisation d'un panthéon d'auteurs, et donc pour les années 50, bon, ben, y a Renoir, Bresson, et quelques autres, mais bon, voilà, et on reconstruit une histoire des grands hommes, hein, en général au masculin. Et donc, voilà, ma démarche, qui n'est pas solitaire, hein, on a progressivement réussi à constituer un groupe assez dynamique, efficace et sympathique, sur l'idée qu'on allait essayer de revenir à ben, qu'est-ce que c'était que ce cinéma, qui allait au cinéma, pour y voir quoi, pour quelles raisons, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi les années 50, tout simplement parce que ce n'est qu'à partir de 45 que le CNC a fait, grâce à un certain nombre de lois et de décrets, a fait en sorte qu'on sache exactement combien d'entrées pour chaque film, hein, et ces chiffres remontent toutes les semaines au CNC depuis 45. Donc avant on peut avoir des hypothèses, mais on n'a pas de certitude. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de commencer à travailler à partir de l'après-guerre, donc, et donc d'exhumer les succès du box-office. D'abord en essayant de les retrouver, de les regarder et de comprendre à quoi était dû leur succès. Et donc à partir de ces 20 succès du box-office tels qu'ils ont été d'ailleurs publiés, rendus accessibles par le travail de Simon Simsi, nous nous sommes posé la question où trouver des traces de la réception ordinaire des spectateurs ordinaires de l'époque. Et donc nous nous sommes tournés vers des objets qui avaient complètement disparu, enfin qui étaient perdus en fait, hein, parce que aucune institution ne s'y était intéressée. C'est les magazines populaires de cinéma, dont le plus connu est Cinémonde, mais aussi des périodiques de novélisation comme Le Film Complet ou Mon Film. Et nous les avons littéralement exhumés, c'est-à-dire qu'il n'y en avait même pas de collection. dans les institutions qui sont censées préserver ces trucs-là, c'est-à-dire la Cinémathèque française, pour ne pas la nommer. Et donc, nous avons acheté des collections, nous avons trouvé chez les collectionneurs de quoi constituer dans nos universités, enfin, essentiellement à Caen et à Bordeaux, des collections. Nous les avons indexées et nous les avons utilisées comme une source. Alors, cette source elle-même, progressivement, nous nous sommes aperçus qu'elle était à deux étages, en quelque sorte. L'étage rédactionnel, c'est-à-dire les films que la rédaction pense qu'il faut populariser parce que ça va plaire au public qui lit ces magazines. Et puis, le deuxième étage, c'est le courrier des lecteurs. C'est-à-dire que nous sommes aperçus, à notre grande surprise, parce que ça n'existe absolument pas dans les revues cinéphiliques, il y a une rubrique systématique et très importante de courrier des lecteurs qui s'appelle dans Cinémonde Potinon. Hein, dans un geste assez typique revendication de la stigmatisation. Hein, comme Cinémonde était essentiellement lu par un public féminin et qu'on sait bien que les femmes, elles ne parlent pas, elles potinent. Hein, donc, voilà, ça, la rubrique s'appelle Potinon et nous avons donc utiliser cette rubrique du courrier des lecteurs comme une source. Alors, c'est une source, bien sûr, qui est secondaire, puisque nous n'avons pas pu avoir accès aux archives, aux lettres elles-mêmes. Ces magazines ont disparu. Il n'y a aucune archive, justement parce qu'en France, on n'accorde aucune importance à tout ce qui est presse populaire. Et donc, il n'y a aucune archive. Donc, nous nous sommes contentés de ce que nous avions et nous nous sommes aperçus que c'était déjà un trésor, c'est-à-dire les extraits des lettres cités par le responsable de la rubrique qui est sous pseudo, dont on ne sait pas qui c'est, vraisemblablement il y avait en partie plusieurs personnes qui s'en occupaient, mais toujours est-il que nous nous sommes aperçus qu'il y avait une véritable mémoire qu'on pouvait repérer, c'est-à-dire les lecteurs qui sont à 80% des lectrices écrivent régulièrement sous pseudo, mais toujours sur le même pseudo. Donc moi, j'ai fait après différentes explorations, à la fois à travers les pseudos, suivre un pseudo sur 10 ans, les années 50. Alors pourquoi les années 50 ? Parce que nous nous sommes aperçus également à travers toutes ces nouvelles, cette source, pas nouvelle, mais ces sources que nous avons constituées comme telles, que les années 50 sont en France un moment très fort d'acculturation. C'est-à-dire, en fait, c'est le moment où se construit une cinéphilie populaire qui va devenir de plus en plus experte. Et qui est tout à fait comparable à la cinéphilie savante telle que nous la connaissons par les cahiers du cinéma. Nous sommes très très loin d'avoir fait le tour de ces nouvelles sources parce que dans le film complet, il y a également un courrier des lecteurs de 4 pages toutes les semaines. Donc c'est des hebdos. Donc vous imaginez, sur 10 ans, ça veut dire toutes les semaines, 4 pages de courrier des lecteurs avec des pseudos qu'on peut repérer, qu'on peut suivre, qu'on voit apparaître, disparaître, mais enfin, bon, se développer. Et donc, un des trucs passionnants, c'est à la fois de repérer quels sont les films dont parle le courrier des lecteurs, qui ne sont pas toujours les films dont parle la rédaction, qu'est-ce qu'en pensent les lecteurs, c'est-à-dire les lectrices, et par quel biais leur cinéphilie se construit. Alors, le biais principal, c'est l'amour des acteurs. Hein, mais contrairement à la doxa, cet amour des acteurs n'a absolument rien d'aliéné et d'aliénant, c'est-à-dire que c'est un moyen d'évaluer la qualité du film à travers la performance de l'acteur et la connaissance des autres performances du même acteur ou de la même actrice et à travers l'idée que ce qui fait la qualité d'un film, c'est que c'est une leçon de vie. Et donc, est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce qu'on y apprend quelque chose ? Est-ce que voilà. Et donc, bon, ben voilà, on a vraiment découvert un continent qui était perdu.
Alors c'est très intéressant parce que C'est très intéressant parce que ça recoupe aussi certains autres travaux qui ont pu être menés justement en études cinématographiques également. Vous, Célia Sauvage, vous êtes beaucoup intéressée, alors dans votre thèse plutôt au cinéma hollywoodien indépendant, et puis petit à petit, plus récemment, j'ai l'impression que vous vous tournez vraiment vers la question de l'étude aussi de public, mais à l'heure contemporaine en fait, d'où là aussi l'écho, mais à plusieurs dizaines d'années d'écart avec ces continents inexploré. Alors aujourd'hui, les échanges se font beaucoup aussi sur le web et vous êtes intéressé à cette réception. Alors je ne sais pas si vous dites aussi ordinaire en l'occurrence, mais ça m'intéresserait de voir s'il y a aussi cette idée d'ordinarité. Vous l'appelez réception sauvage, mais on y reviendra aussi. Et je me demandais justement pourquoi, justement, à un moment donné, avoir eu besoin d'aller du côté de cette réception et qui, justement, à quel type de public vous accédez en fait à travers le web ?
L'idée, c'était un peu de travailler sur les différents publics, souvent qui sont aussi réemployés ou mobilisés pour comprendre la réception d'un film. Il me semble que très souvent, quand on parlait de réception, enfin, au moins avant que certaines grandes figures en France changent un peu la donne, mais souvent on regarde ce que disent les critiques, qui serait un petit peu comme ça le modèle d'évaluation. Si la critique dit ou parle de ceci à propos d'un film, ça devrait être comme ça pour tous les publics. Et en fait, on se rend compte qu'avec Internet, il y a un certain nombre de publics déjà qui prend un peu position et pouvoir, et plus Internet s'est développé, plus on s'est rendu compte que le public d'Internet ne disait pas du tout la même chose que les critiques professionnelles. Donc je trouve ce qui était intéressant aussi, c'est de montrer cette idée qui est bien montrée aussi avec le rapport à la cinéphilie. Il n'y a pas d'un côté les experts qui savent parler avec connaissance et avec technicité aussi d'un film, que ce soit des experts professionnels, donc des critiques, ou des cinéphiles qui sont aussi institutionnalisés ou légitimes entre guillemets. Il y a aussi tout un public, du coup, plus ordinaire, mais là où la différence, c'est que le public sur Internet paraît de plus en plus expert, finalement. Contrairement peut-être à un public où symboliquement le public ordinaire donne l'impression d'être un public plus moyen, peut-être moins armé aussi pour discuter de ces questions-là, ou d'avoir des critères d'évaluation d'un film finalement assez basiques, entre guillemets. Et je trouve du coup intéressant, c'est que grâce à Internet, non seulement un certain nombre de publics ont pu aussi changer les critères d'évaluation, on n'évalue pas les films de la même façon, et on montre surtout que le public sur Internet est un contre-critique, entre guillemets, qui est des fois bien plus puissant que la critique professionnelle. D'où aussi cette différence, il me semble, qui s'est un peu créée sur Internet, c'est que aujourd'hui, sans se mentir, la majorité des gens n'achètent plus aussi de presse papier. Donc la critique papier n'existe plus. Plus tellement, en tout cas. Ou n'a plus la même sphère d'influence. Les gens, il me semble, la première chose, c'est si on veut voir ce qu'on pense d'un film, ben, on ne va pas ouvrir un journal. On ne va pas ouvrir un magazine. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder ce qui se dit sur Internet. Ce qui se dit sur des forums très grand public, comme Allociné, par exemple, pour nous en France, ou pour les Américains sur IMDb. Mais un certain nombre aussi de sites ou de blogs sont bien plus influents, par exemple, que je vais regarder sur ce dernier film ce qu'on a pensé Libé ou Le Monde sur leur site. Au contraire, certains blogs sont bien plus puissants. Les gens aussi ce nouveau réflexe de regarder aussi plutôt, par exemple, ce type de critique. Du coup, l'idée de critique sauvage, c'était aussi un peu d'opposer ce qui est la critique institutionnelle légitime qui aurait le droit ou le monopole de l'interprétation et le monopole de la grille d'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut évaluer pour estimer que tel ou tel film est le plus intéressant ou le film à aller voir dans la semaine, par exemple. Du coup, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à voir ça. Comment on a basculé aussi ce rapport de pouvoir ? Comment la critique non professionnelle a pu démontrer son expertise et a pu montrer son influence beaucoup plus forte ? Où aujourd'hui, un certain nombre de critiques, notamment, peuvent défaire l'influence d'un film. Et c'est pas étonnant de voir, par exemple, les distributeurs ou les producteurs courtisent beaucoup le public sur Internet, notamment en France avec Allociné. On courtise beaucoup les internautes. Les plus influents, par exemple, des fois sont invités aussi en projection, en avant-première. On leur fait gagner des places pour être sûr, voilà, que le bouche-à-oreille soit plus important finalement que de savoir ce qu'on a pensé Libé ou Les Cahiers ou Le Monde, par exemple. Du coup, je trouvais intéressant aussi de voir tout ce basculement et surtout de voir, là je rejoins vraiment Geneviève, aussi de voir que ce qui est aujourd'hui et positionné comme des critères d'évaluation, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas un film, ne ressemble en rien à la grille d'évaluation qui a été légitimée aussi et par l'université française, mais aussi par la critique française. L'esthétique, par exemple, est bien souvent moins mobilisée que les questions d'identité, ou en tout cas, clairement, aux États-Unis, ça a complètement basculé. Les Américains, le public américain ne parle plus tellement de savoir si le film est bien fait ou mal fait. Mais il y a cette volonté aussi de trouver un reflet dans les films ou dans les séries, un reflet du public. Donc le public évalue aussi cette question-là. C'est plus le film ou plus la série va lui ressembler, plus a priori le film risque de plaire. Donc c'était aussi travailler sur cette question-là. Comment on a changé aussi ce rapport-là? Comment, par exemple, aujourd'hui, je pense que c'est assez visible depuis au moins 3-4 ans, si un film n'est pas féministe, on peut être sûr que il va y avoir matière à débat, à polémique, et qu'un certain nombre de réalisateurs ou de producteurs et distributeurs vont devoir s'armer lourdement pour pouvoir répondre aussi à la critique Internet. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur Tarantino, dont la réputation a été assez malmenée par le public, où il y a, on le voit bien en France, un pas immense entre ce que dit la critique, notamment de Tarantino. On ne le regarde que comme un esthète, quelqu'un qui a des références justement cinéphiliques extrêmement expertes. Mais ce qui est dit sur Internet, c'est de plus en plus visible en France et c'est très visible aux États-Unis depuis au moins Kill Bill pour lui. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est son rapport aux identités, son écart comme ça aussi à la réalité. Et on lui reproche de faire des films non féministes, potentiellement racistes, voire antisémites. Mais il y a tout ce rapport-là où voilà, le critère du fun ou du cool ou du bon cinéphile ne plaît pas du tout au public, en tout cas n'est pas le critère d'évaluation principal. Et ce qui fait que ça demande aussi, par exemple, à des réalisateurs comme Tarantino de se réajuster et de ne pas tenir le même discours pour défendre leur film également. Tarantino ne dit pas la même chose à son public et ne dit pas la même chose à la critique, comme il ne dira pas la même chose à la critique américaine ou à la critique française, où il sait qu'en France, voilà, les cahiers, par exemple, vont lui accorder 2, 3, 4 pages d'interview pour faire la liste de toutes ses références de son dernier film. Aux États-Unis, ça va être beaucoup plus difficile. On ne va pas du tout l'interroger sur ces questions-là. Donc lui-même va devoir aussi réajuster son discours, et toute la réception de son film va radicalement dépendre de cette question-là.
Alors là, ça fait un lien assez intéressant avec votre position, Alice Coffin. La question que je me posais, c'est justement quand on est militante, féministe, qu'on a participé à la Barbe régulièrement, qu'on a constitué la Barbe aussi, c'est quoi le rapport qu'on a justement à la culture, au cinéma, aux médias? En gros, en quoi cette position de féministe ou de militante change le type de relation qu'on noue avec les productions cinématographique contemporaine, et en quoi ça déplace potentiellement les codes d'appréhension que l'on peut avoir du cinéma.
Oui, bonjour. Justement, ça m'a fait juste d'enchaîner. C'est vrai que c'était assez, c'est parfait parce que juste ça m'a fait. C'est pour ça que je cherchais, pardon, dans mes notes, mais tout en t'écoutant, je lis trois phrases là d'un texte. Je vous explique de quoi il s'agit après. Alors tu sais, Paul, les critiques t'encensent. Mais les féministes ont un message pour toi aujourd'hui. Tu nous débectes, toi et ton film. Nos désirs sont les nôtres, nos corps et nos plaisirs nous appartiennent. Et la prochaine fois, on te conseille plutôt de faire un film sur un sujet que tu maîtrises, les désirs d'un type qui pense qu'une moitié de l'humanité a uniquement été créée pour le plaisir de l'autre. Bon, ça c'est un texte qui est signé par un groupe qui s'appelle FIER, qui est un groupe féministe et lesbien, au sujet du film Elle. Joué par Isabelle Huppert, et qui citait juste ça parce que c'était exactement ça entre la dissension, puisqu'elle commence en disant toi, les critiques en sens ton film, mais voilà nous le message qu'on a à te donner. Et c'est vrai que c'est c'est assez intéressant de constater que l'écart va souvent se faire pour un type de public qui est un public politisé. Donc je parle ici effectivement du public de certains groupes féministes ou d'autres d'ailleurs groupes de défense de minorités, qu'elles soient minorités de genre, minorités racisées, minorités, enfin, qui vont avoir une appréhension très différente de ce qui peut se dire dans un discours plus mainstream sur tel ou tel film. Je peux être un peu plus précise peut-être pour savoir de quoi on parle. Donc moi, j'appartiens à un groupe activiste féministe qui s'appelle La Barbe, dont la spécialité est en gros d'aller envahir, s'introduire dans les lieux de pouvoir où 80, 90, 95%, 100% souvent, des postes sont occupés par des hommes. Ces lieux de pouvoir-là, ils peuvent être des conseils généraux de telle collectivité, ils peuvent être des conseils d'administration, ils peuvent être des fédérations sportives, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup aussi. D'ailleurs, ça me frappait, je reprenais c'est un livre qui recense les 200 et quelques actions que La Barbe a fait depuis 7-8 ans. Et le premier chapitre s'appelle « Agriculture ». Et en fait, parmi ce qu'on appelle nos cibles, il y a énormément, énormément d'institutions culturelles, que ce soit des expositions, des festivals de cinéma, effectivement, des théâtres qui donnent en ouverture. Donc, c'est vraiment un de nos secteurs privilégiés et bien aimés. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que les hommes qui occupent les fonctions dans ces institutions du cinéma, parce que je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, réagissent par rapport à d'autres cibles. C'est-à-dire que, de manière générale, quand un public, donc le public tel que les féministes qui composent le groupe de La Barbe, réagit, ça se passe pas super bien. De manière générale, les personnes sont pas très ravies de nos interventions. Mais par exemple, quand on va dans une entreprise, ils vont nous dire « Oui, mais vous comprenez, c'est une question de compétence. On peut pas, c'est pour ça qu'il y a que des hommes, hein, c'est un problème de compétence. » Ce qui est une réponse très pénible, mais qui ne va pas être celle, finalement, des milieux artistiques et en particulier de ceux du cinéma. C'est beaucoup plus retors dans chez les publics-là. Ça va être davantage, mais voyons, l'art est universel. Vous pouvez bien penser que, à la limite, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas pour eux une question. C'est-à-dire que le fait même qu'on puisse venir, que des publics puissent venir interroger des producteurs d'œuvres, des auteurs d'œuvres, des responsables, des décisionnaires sur des festivals, sur le fait que justement, non seulement leur poste de décision ne soit occupé que par des hommes. Non seulement il ne convie que des hommes ou ne récompense que des hommes, mais aussi, bien entendu, et ce qui nous intéresse peut-être plus ici, que ça a une traduction dans le regard qui est porté par leur œuvre, c'est une question, c'est même pas leur réponse qui va être problématique, c'est qu'ils ne veulent même pas y répondre. Elle est qualifiée de stupide et ça veut dire comme si on avait une espèce de consubstantialité entre ce qu'est leur art, en l'occurrence par exemple le cinéma, et une certaine construction du masculin. Ça m'intéressait évidemment beaucoup aussi parce que ça s'est, je trouve, beaucoup construit autour de la nouvelle vague, mais aussi de l'appareil critique qui a été développé à ce moment-là. Et je vais citer un exemple. Une de nos actions, ça a été avec La Barbe en 2012. On a interpellé les responsables du Festival de Cannes parce qu'il y avait eu 22 œuvres sélectionnées au Festival de Cannes et tous les films avaient été réalisés par des hommes. À cette occasion, il y a Serge Kaganski, qui est critique, entre autres, aux Un Rock et tout ça, qui nous a répondu et qui a dit, ça m'intéressait beaucoup sur la volonté de légitimation aussi du cinéma en tant que d'autres œuvres par rapport à d'autres arts littéraires, picturaux, et qui nous répond en fonction de ça, en disant « Mais écoutez, de toute façon... » Donc, il nous traite de stupide, etc. Et puis, il dit... Mais brûlons aussi Flaubert, Balzac ou Proust, horribles machos qui ont osé prétendre sonder les cœurs féminins dans leurs romans, pendons les ignobles Courbet, Manet, Picasso qui ne peignaient que des bobines ou des corps de femmes, dénonçons le mouvement surréaliste qui ne comportait que des hommes et les impressionnistes majoritairement masculins, sus au rock'n'roll des origines dont la seule femme était Little Richards. Oui, précisément. Donc, c'est un peu... Bon. Non, mais c'est intéressant de voir justement que la nécessité de forger un public... politique et de le voir agir est d'autant plus grande qu'en face il n'y a pas vraiment de discussion possible en fait, hein, et qu'il y a une volonté, et c'est là où on reste dans cette même sphère des publics, de délégitimation, de rendre la parole non crédible en fait, de vraiment de la disqualifier d'emblée. Donc on ne puisse même pas avoir de discussion au nom même hein, de ce que serait la pratique artistique. Voilà, l'art et la pratique artistique. Et ça, c'est vraiment très particulier. Sur les autres cibles qu'on a, les fédés sportives, les entreprises, tout ça, je ne dis pas qu'ils ont des réponses très intelligentes, mais ça n'est pas le même type de réponse qu'on a là. Donc ça m'intéressait beaucoup sur ce lien-là. Et évidemment, ça m'intéressait beaucoup aussi cette émergence-là des publics des réseaux sociaux. Parce que les mobilisations que peut faire la Barbe ou d'autres groupes, on l'a vu récemment au moment de ce qui s'est appelé l'affaire Roman Polanski, mais le choix de désigner parmi toutes les personnes possibles. Hein, en tant que président de la cérémonie des Césars, Roman Polanski a donné lieu à une mobilisation, effectivement, notamment via les réseaux sociaux, et qui a abouti à ce moment-là. Et ça, ça m'intéressait parce qu'en fait, elle a abouti. C'est-à-dire que finalement, Roman Polanski a renoncé à la présidence. Et pourquoi ça a eu plus de chances d'aboutir que d'autres revendications contre des films en particulier? Parce que je pense que là, il y avait davantage de possibilités justement d'agréger des publics mécontents, contestataires, et notamment par le web. Je dis ça parce que c'est moins facile, de manière générale, sur les films de cinéma qui se prêtent moins, je trouve, à une agrégation en un temps donné, d'un public donné. Je m'explique, moi je travaille aussi, je suis par ailleurs présidente de l'association des journalistes LGBT, on travaille beaucoup sur comment la télévision produit des œuvres très discriminatoires envers les publics homosexuels ou les publics racisés. Mais quand ça se passe à la télé, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de regarder au même moment à sa télévision tel programme ou telle série. On a beaucoup plus de facilité, du coup, à mobiliser les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tous en train de le regarder au même moment. Un film, c'est un peu plus compliqué parce que les gens vont le voir pas nécessairement, évidemment, à la même heure, au même moment pour mobiliser. Donc, sur Polanski, c'était plus facile parce que finalement, c'était lié au cinéma, mais c'était surtout un fait d'actualité dont tout le monde pouvait effectivement se saisir de telle manière. Mais sur les films, je trouve que c'est toujours un peu plus compliqué. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que souvent, moi, j'ai vu des revendications germer beaucoup plus quand il y avait une rediffusion du film à la télévision que quand il y avait une diffusion du film en salle, puisque à la télévision, tout le monde pouvait réagir, en gros, si ça passait le dimanche soir à 20h50, au même moment. Voilà. Donc, c'est pour une approche un peu... je reviendrai dans le détail ultérieurement.
Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Je pense, en effet, que les milieux de la culture et de l'art sont totalement imperméables à l'idée... qu'il y a une discrimination. Enfin, disons qu'il y a un machisme dominant, enfin, qu'il y a une domination masculine écrasante. Bon. Et face à ce constat, et donc ça, par exemple, dernièrement, sur les réseaux sociaux, nous avons essayé de protester contre la présentation qui était faite de Dorothy Arzner par la Cinémathèque, qui fait une rétrospective de cette cinéaste, non pas à son initiative, mais à l'initiative du Festival international de films de femmes de Créteil, dont la directrice, d'ailleurs, n'est pas invitée à la présentation. Enfin, je veux dire, leur arrogance, leur mépris, leur goujaterie est absolument sans limite. Et donc, face à des comportements de ce genre, parce que le sentiment de leur légitimité, hein, alors qui, c'est le sentiment de légitimité... C'est une espèce de grand cercle comme ça, où au centre, il y a l'artiste, masculin, bien entendu, et puis après, il y a tous les institutionnels, critiques, etc., enfin, tous ceux qui jouent les passeurs et qui s'identifient à l'artiste, et donc qui se prennent aussi pour des artistes, et donc qui sont là pour défendre bec et ongle le droit de l'artiste à être au-dessus des lois, en fait. C'est tout simple, hein. L'artiste est au-dessus des lois. Et donc, en vous écoutant, je me disais que face à un comportement de ce type, effectivement, la seule arme vraiment efficace, c'est le boycott. Et on ne peut pas boycotter une œuvre à la télévision. En revanche, si on s'organise suffisamment bien et qu'on diffuse sur les réseaux sociaux des critiques, des vraies critiques, des films qui nous semblent inacceptables, il me semble que là, il y a une piste.
Oui,
Je voulais juste revenir du coup sur la question de l'universalité, enfin qui est vraiment essentielle dans les rapports de réception. Moi, j'y suis confrontée tout le temps, et dans ce que j'étudie, mais aussi dans la façon dont je peux l'étudier. C'est assez visible de voir que justement l'émergence du contre-public aussi, notamment grâce à Internet, est une façon de montrer que le public n'est pas universel, que la critique nous a un peu bernés en nous donnant l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de regarder un film et qu'il n'y a aussi qu'un seul public. Et c'est très visible en France où le public devrait être universel, où globalement on devrait tous avoir le même avis, que les critiques qui sont malheureusement tous quasi exclusivement masculins, blancs, hétérosexuels et relativement bourgeois si ce n'est plus, mais qui est devenu un peu le modèle comme ça. Du coup, l'objectif des contre-critiques, je trouve que c'est vraiment assez visible, c'est justement de casser cette idée qu'il n'y a pas de public universel. Et la première arme de contre-critique, c'est justement de brandir aussi son identité et de dire que la critique, c'est aussi un rapport subjectif à l'œuvre. Et que cette subjectivité, elle est forcément interdépendante de mon identité et que nécessairement, si je suis une femme, je ne vais pas recevoir la même chose qu'un homme. Et que si je n'appartiens pas à la même classe, pas à la même orientation sexuelle et pas à la même race, j'ai aussi ce rapport-là qui va changer. Du coup, je trouve ça assez intéressant effectivement de voir d'un côté que le contre-pouvoir, c'est aussi une façon de brandir cette identité pour prouver que la subjectivité critique, elle est bien plus diverse qu'on ne le croit. Et deuxièmement, ce rapport-là, il est aussi brandi envers les créateurs et les décisionnaires à qui on demande fermement sur Internet de se justifier du pourquoi, du comment et l'effacement qui est... Qui est choisi aussi par les décisionnaires, par les distributeurs, par les créateurs. Cette idée d'effacer aussi que ce sont les hommes, des hétéros, des blancs essentiellement qui créent l'ensemble aussi des productions. Cet effacement, il est brandi par la contre-culture ou la contre-critique comme quelque chose d'inacceptable. Quelque chose qui justement ne doit pas être invisible, ce privilège ou cette domination ne doit pas rester invisible. C'est assez visible, même je le vois assez régulièrement avec mes étudiants, mais il y a toujours ce rapport-là de dire mais pourquoi vous précisez tout le temps que parce que vous êtes une femme ça change, et pourquoi parce que nous on est des hommes on ne reçoit pas la même chose. Et c'est très visible de dire on est tous universels. Là, ce qui m'a assez choqué il y a quelques semaines, je leur parlais de l'Oscar pour Moonlight, et je leur expliquais que c'était quand même quelque chose d'assez historique qui se passait dans le cinéma américain. C'était le premier Oscar pour un meilleur film explicitement LGBT où il n'y a pas un seul personnage noir à part deux des producteurs qui sont blancs, mais la majorité de l'équipe est aussi noire. Je leur expliquais en quoi c'était aussi historique de montrer que l'industrie a franchement aussi glorifié comme ça une production différente. Et la réponse d'un de mes étudiants qui vient me voir, qui n'a pas osé me le dire en cours devant tout le monde, mais est-ce que vous trouveriez que le film serait bien si justement c'était des hommes blancs hétérosexuels? Mais je n'ai même pas su quoi lui répondre, parce qu'en fait c'est le fondement même du film de justement montrer une diversité qui est d'ordinaire invisible. Et l'étudiant me dit, mais je ne vois pas l'intérêt justement de comprendre pourquoi la réception LGBT est différente sur ce film ou pourquoi la réception afro-américaine est différente. Après tout, on devrait tous avoir le même regard sur le film. Mais c'était frappant que même pour une certaine partie du public, il y a cette difficulté à dire qu'on n'est pas universel et on ne répond pas des mêmes besoins, des mêmes désirs, des mêmes envies critiques. Et je trouve ça assez gênant, surtout en France, cet effacement qui est beaucoup plus visible aux États-Unis où voilà, c'est tout à fait normal et accepté d'avoir une lecture aussi identitaire par rapport à un contenu médiatique. Là, par exemple, on voit sur Trump, les journalistes ont clairement aussi brandi leur identité pour l'attaquer. En France, on n'aurait jamais osé dire ça. Brandir son identité féminine pour attaquer un président, ouais, c'est très mal vu. Mais c'est aussi un des discours en ce moment où de justement dire mais où sont les femmes dans cette présidentielle et où sont les journalistes féminines ou féministes et pourquoi personne ne parle de ça. Enfin, ça paraît tout à fait normal qu'il n'y ait que des hommes qui ont tous plus ou moins plus le même profil et personne n'ose parler en France.
Oui, pour revenir à la France, effectivement. Nous sommes en quelque sorte les héritiers et les victimes de ce qu'on appelle en France, enfin ce qu'on n'appelle pas, mais qui est l'universel masculin. C'est-à-dire que depuis la Révolution, il est entendu que le modèle démocratique est celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, qui est en fait au masculin et qui exclut les femmes, mais ça... quasiment personne ne le dit, Et il est entendu que dans la culture, dans la politique, etc., il existe un seul modèle qui est démocratique, qui est républicain et démocratique et laïque, et auquel tout le monde est censé se plier naturellement. Hein, et qu'en plus, on le présente comme un gage de démocratie, ce qui est quand même un comble. Et donc, c'est ce poids de l'histoire et d'une histoire révolutionnaire très fière d'elle-même, hein, parce que la révolution, c'est quand même quelque chose, y compris en particulier dans les milieux de gauche. Hein, ça, c'est une de nos galères, c'est que la gauche, l'extrême gauche française, ont totalement intériorisé cette misogynie constitutive, hein, qui fait que les femmes sont toujours moins légitimes parce que le modèle, il est masculin. Hein. On ne le dit pas, mais en réalité, c'est dans la tête de tout le monde. Et donc, dans la culture, ça marche de la même façon. Les grands hommes, les grands écrivains, tout ça, c'est des hommes. Et donc, les femmes sont des cas particuliers. Alors, si elles se modèlent sur la matrice masculine universelle, on les tolère. Ce qui arrive d'ailleurs à un certain nombre de critiques de cinéma, femmes, hein, elles font bien attention de faire comme leurs collègues masculins, de dire les mêmes choses, surtout pas se distinguer, surtout pas se revendiquer, ni comme femme, encore moins pour féministe. Hein. Bon, quand même, le fait que féministe soit une insulte, c'est une spécificité française quand même, hein. Aux États-Unis, là, je voyais récemment Jessica Chastain, l'actrice qui joue dans Miss Sloane. Elle se revendique absolument comme féministe. Elle dit que tout son travail est orienté vers la défense, vers la défense de rôles moins stéréotypés pour les femmes, etc. Toute son activité est orientée. Elle a participé à la marche des femmes, etc. Et pour elle, c'est un titre de gloire. Enfin, c'est son identité. Imaginez en France une actrice. Bon. Voilà, donc on a des casseroles. Hein.
Je fais juste un petit point justement sur Cannes. C'était un peu la polémique l'année dernière au festival, puisqu'il y a eu une journée où on parlait justement de la place du cinéma féminin ou des femmes dans l'industrie. Et Juliette Binoche, ça a fait polémique. Juliette Binoche a dit mais on devrait effacer ce mot après tout. Qu'est-ce que ça veut dire féministe? Il n'y a pas de féminisme. Et ça a été très très mal reçu. D'autant plus dans le cadre qui était on parle du cinéma féminin ou de la place des femmes dans l'industrie. L'immense malaise qu'a provoqué Juliette Binoche à dire mais. Enfin, quel est l'intérêt de parler de féminisme? Ça me gêne. Et bon, ça a été très, très mal reçu à Cannes.
Et elle est l'actrice idéale du cinéma, du Festival de Cannes, du cinéma français, d'auteur, etc.
Alice Coffin, pour le coup, il y a quelque chose dont on avait discuté avant de préparer ce débat, qui était typiquement par rapport à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les actions de fière qui sont dans une logique de critique d'un film, donc on est vraiment dans une action qui se produit après coup. Je trouve que ça fait pas mal écho avec ce que disent Geneviève et Célia, c'est-à-dire à la barbe vous avez plutôt choisi une sorte de modalité de contestation qui est vraiment d'aller vers les gens qui font du cinéma, c'est-à-dire les publics pour le coup de vos actions, si on pense aussi à qui sont les publics d'une action militante, ne sont pas nécessairement uniquement les spectateurs, spectatrices, et donc c'est là aussi où ça répond à peut-être ce que Geneviève disait sur on ne sait où ce que tu disais, ou ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les publics d'un film, c'est compliqué à atteindre en réalité, mais potentiellement, on peut agir aussi sur les producteurs, sur les réalisateurs, réalisatrices, mais là, en l'occurrence, plutôt les interlocuteurs dans un milieu très masculin, voire même sur les journalistes. Donc, est-ce que vous pourriez développer là-dessus ?
Effectivement, parce que en fait, il y a une gamme d'interventions qui est possible pour les publics, et effectivement, peut-être, là où on intervient, nous, à la barbe, ça va être sur, même plus encore plus que la décision en amont sur l'allocation des ressources, par exemple, hein, qui est donné l'argent pour les artistes, ce qui change un petit peu tout sur la façon dont après peuvent travailler. Et donc, si je peux faire un tout petit, un petit éventail, en fait, de la façon dont on peut agir, c'est très différent. Là, la première action, si vous voulez agir directement sur une œuvre culturelle, la plus peut-être compliqué à faire, mais assez génial, ça va être de directement s'introduire avant même dans l'œuvre. Je prends un exemple, je sais pas, il y avait dans la série Homeland, en fait, qui avait été estimée, et juste titre, bon, raciste par beaucoup de public, d'artistes. Il y a trois artistes qui ont réussi à s'introduire sur le plateau de Homeland, entendait pendant les décorations et tout ça. Et puis, il fallait mettre des inscriptions en arabe sur les murs de décoration. Et eux ont inscrit, et c'est passé dans le deuxième épisode de la saison 5, Black Lives Matter et Homeland est une série raciste. Donc ça, c'est bon, la première façon vraiment assez... On s'introduit directement au cœur du dispositif. La deuxième façon dont on va pouvoir opérer, c'est effectivement ce qu'on a déjà cité, c'est en produisant soi-même de la critique de ces œuvres-là. Donc c'est le texte de Fierre que j'ai cité tout à l'heure, ou c'est au moment du film, par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 12 millions d'entrées en France, interdit aux États-Unis parce que raciste. Un texte d'une chanteuse qui s'appelle Inès Elchik, qui a fait tout un texte en disant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le racisme c'est rigolo, ou d'autres textes qui ont été produits pour combler le manque qui était celui des critiques plus mainstream, pour qui le problème ne s'était pas posé. Et ça veut dire qu'après, on a eu des émissions sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je resitue, c'était un film, je ne sais pas si vous voyez, en affiche avec Christian Clavier, enfin, où il y avait effectivement la volonté de dire tout le monde est raciste et c'est drôle. Et après, ça a été repris par d'autres émissions. Donc ça veut dire qu'on peut essayer de faire évoluer la pensée, le discours critique sur le système si on produit soi-même des choses. Ça, c'est encore le stade le plus proche. Un autre stade va être de contre-carrer la critique qui est déjà écrite, de la reprendre à son propre compte, de faire du travail de réappropriation des discours, alors soit de ce qui est déjà produit, soit des discours culturels. Dans ce qui est déjà produit, c'est un exemple médiatique, mais c'est les vidéastes très connus que faisaient les féministes sur des reprises d'un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Miso et Mazo vont en bateau, où on reprend une émission de télé pleine de propos sexistes et où on la reformule pour la montrer. Ça se fait encore actuellement, il y a beaucoup de groupes antiracistes qui travaillent là-dessus, qui reprennent par exemple des dossiers entiers de Libération ou d'autres journaux pour les réécrire et pour montrer à quel point le discours initial était raciste. Donc ça, c'est vraiment la réécriture de la critique ou directement la critique sur la critique. Je pense qu'on avait fait beaucoup monter, par exemple, au moment de la vie d'Adèle, il y avait un critique du Parisien qui avait expliqué, Pierre Vavasseur, pour le nommer, qui avait dit « Oui, ce film où les filles se farfouillent le sexe ». Donc évidemment, comme d'autres, de toute façon, ils ne prononçaient pas le mot « lesbienne » puisque c'était un mot manifestement qui n'était pas prononçable par l'ensemble des critiques. Hein, bon. Et par ailleurs, il employait certains qualificatifs pour décrire l'acte sexuel qui était montré à l'écran. Donc ça, pareil, on reprend. Et puis on arrive enfin à d'autres stades quand on est déjà passé par tout ce qui est produit. Une fois l'œuvre produite, qui sont donc nous. C'est vrai, c'est ce qu'on fait avec la barbe. C'est essayer d'avoir de l'influence sur deux choses. On passe d'abord sur les. Je lis, hein, c'est dans le texte, mais c'est pour bien le dire. L'influence sur les distinctions de type. Prix et fonction de direction, donc tout ce qui est sur fonction de reconnaissance, ce qu'expliquait Geneviève, c'est qu'il n'y a pas que l'artiste et tout ça, c'est tous ceux, les passeurs, qui disent que même au nom de l'artiste et qu'on va lui donner des prix, et parce que c'est l'artiste, et donc ce discours-là, évidemment, on doit le récompenser. Donc ça, on le fait systématiquement, et c'est très drôle parce qu'on a fait d'innombrables actions dans les festivals. C'est même pas le problème qui récompensait que des hommes. Les pauvres, ils ne pouvaient pas faire autrement puisqu'ils n'avaient sélectionné dans les nominés que des hommes. Donc effectivement, ça ne pouvait arriver qu'à avoir des récompenses chez les hommes. Et ça, c'est autant des festivals de type Cannes qu'on l'a fait au festival de films d'histoire de Pessac, dans le festival des écrans Lumière à Lyon. Enfin, c'est partout, c'est systématique. Et c'est un système qui s'auto-entretient. Très bien. Et enfin, effectivement, l'autre, c'est d'avoir une influence, je ferme la boucle, directe sur l'accès des moyens de production, l'allocation des ressources. On n'a pas encore réussi à aller barber le CNC, mais on l'a fait en matière, par exemple, d'architecture. On est allé barber la Fondation Cartier, qui donne des bourses aux jeunes architectes, qui donne des choses, et évidemment, qui ne choisit, et qui, dans son colloque annuel, n'invite que des hommes, et qui, après, s'étonne. Ah, bah oui, bah, tel ou tel, bah ouais, c'est que des hommes qui ont reçu les bourses, oui. Donc, c'est vraiment d'aller interroger aussi à qui va l'argent, à qui va, j'entendais encore, il y avait la documentariste cinéaste Amandine Gay, qui a produit un film récemment qui... extraordinaire qui s'appelle Ouvrir la voie, qui donne la voix justement à 13-14 femmes noires pour parler de leur expérience et qui explique très bien à quel point elle n'a pu avoir aucune subvention du CNC, aucune, jamais, sur aucun de ces projets, jamais. Quand on voit la qualité, l'originalité du film, et donc c'est pour ça qu'il faut agir aussi là-dessus. Donc nous, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire avec un moyen, mais extrêmement simple, en fait. C'est qu'il faut d'abord compter pour ça. Il faut d'abord rendre visible pour ça. C'est pour ça que je trouve qu'il y a déjà eu un petit effort. Enfin, à la télévision, c'est lent, mais ça a un peu plus bougé dans les séries et les fictions, parce que le CSA, force de pression, a mis en place un groupe droits des femmes et représentation des femmes à la télévision. Et a montré, en fait, par des études, à quel point, par exemple, les héroïnes de fiction étaient mais complètement stéréotypées. Et là, on a une petite évolution, moi je le note aussi, y compris dans les séries de TF1. On n'est plus du tout seulement dans l'homme blanc, hétéro, et ça bouge aussi parce que ça a été compté, comptabilisé, et que ça revient aussi à ce qu'on disait avant, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir une action directe, un impact direct, ou une mobilisation directe du public de la télévision que celui du cinéma aussi. Donc voilà pour l'éventail un peu des façons dont on peut agir en tant que public politique.
Je voulais juste réagir sur ça, sur comment justement le public peut aussi amener à changer la constitution des membres des festivals ou des remises de prix, etc. Ça a été assez visible aux États-Unis puisque l'année dernière, il y a eu une immense polémique autour justement de quasi l'ensemble des nominés étaient issus de productions et d'équipes techniques blanches. Donc avec une immense polémique, notamment autour de Twitter, avec la reprise du hashtag Oscar So White, qui a été tellement importante que ça a forcé du coup les Oscars à changer son système de votants et à éliminer, je crois, quasi un tiers des votants actuels et à les remplacer par des votants explicitement issus de minorités. Donc on a remplacé un certain nombre de votants qui étaient quasi tous des hommes blancs très très vieux par un certain nombre de votants beaucoup plus jeunes et issus de minorités, dont des femmes, des afro-américains, des latinos, une toute petite minorité et des votants difficilement déclaré tel quel, mais LGBT également. Ce qui fait que ça a été assez visible. Cette année, c'est l'une des années où il y a eu le plus, justement, de films nominés non blancs, notamment, et moins hétérosexuels. Moins masculin, ça n'a pas été le cas cette année, mais en tout cas, on a eu cette année une des listes de nominations les plus diverses, et ça a été assez visible aussi en termes, du coup, finalement, de prix accordé, et ça essentiellement grâce au changement de votants. Tout le système de vote a été changé aux Oscars, voilà, et grâce aux réseaux sociaux qui ont permis de changer ça.
Geneviève Cellier, en l'occurrence, vous avez créé récemment un site, je me permets quand même de vous amener à en parler, donc qui s'appelle Genre et Écran, qui est tout nouveau, tout neuf, et qui en même temps commence à avoir une petite réputation de déstabilisation, et c'est très bien. En l'occurrence, je me demandais, parce qu'il y a cette discussion entre vous trois qui est sur la question de qui fait la critique aussi du cinéma, qui produit des discours, donc dans quel but en fait vous avez créé ce site, et est-ce que justement c'est pour prendre un espace qui est par ailleurs dans cette médiation entre les publics et les producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices, est-ce qu'il y avait justement un espace à occuper? Est-ce que justement ça renvoie à cette stratégie-là?
Ah oui, l'espace à occuper, il était évident, hein. Je veux dire, la France est sans doute le pays où la critique institutionnelle, enfin celle qui apparaît dans les revues de presse, quoi, hein, de la Bifi ou d'ailleurs, la plus monocorde, quoi, hein. C'est épouvantable. Et le problème, c'est que ça, je le sais depuis très longtemps. Simplement, jusqu'à maintenant, j'avais pas le temps, parce que j'avais pas le temps et je me sentais trop vulnérable. C'est-à-dire, je travaille sur donc l'approche genrée des films depuis 25-30 ans et j'ai pris beaucoup de coups dans l'université en particulier. Qui développe, et dans les départements de cinéma en particulier, qui développe une hostilité franche et massive vis-à-vis des approches genrées. Et donc, je dirais que j'ai passé toute ma carrière, modeste, à essayer de produire des recherches en essayant de pas prendre trop de coups. Et donc, je savais très bien que faire une initiative de ce genre, bon, d'abord, il fallait du temps, hein, donc faire un lieu où pourrait s'exprimer une critique féministe, tout simplement, du cinéma et de la télévision. Hein. Et donc, je voulais faire ça depuis longtemps. Et jusqu'à maintenant, je n'avais pas la possibilité ni les forces de le faire. Et donc, je viens de prendre ma retraite. Donc, je suis émérite, c'est-à-dire je ne fais plus de cours, mais j'ai encore des doctorants et je fais encore de la recherche, bien sûr. Et donc, là, j'ai eu le temps. Et puis aussi, c'est vrai que mon travail est un peu plus légitime, pas forcément tellement en France, mais dans les pays anglo-saxons, suffisamment légitime pour que je puisse me lancer. Et donc, j'ai créé ce site il y a 4 mois. L'idée aussi, c'était de me jeter dans les réseaux sociaux, ce que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant pour les mêmes raisons. Et donc, ma fille m'a initiée. Et donc, l'idée, c'est effectivement de mettre en branle cet outil extraordinaire quand même, hein, qui n'existait pas moi quand j'ai commencé à travailler dans ce sens-là, mettre en branle ces outils et les utiliser pour attaquer la forteresse de la cinéphilie masculiniste dominante. Alors évidemment, nos forces sont extrêmement modestes, hein, et on prend déjà des coups, mais bon, maintenant je dirais que ça m'est tout à fait égal. Maintenant, il n'y a plus d'enjeu. De toute façon, je n'ai plus de pouvoir dans l'université. Avant, je faisais attention aussi parce que, en termes de recrutement, je ne voulais pas trop me griller pour mes doctorants. Et et évidemment, j'étais quand même grillée, hein, bien sûr. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus libre. Et donc, l'idée de ce site, Le Genre et l'écran, que je vous invite à visiter si vous ne le connaissez pas, se veut un site collectif. C'est-à-dire, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est de constituer une communauté de critiques féministes du cinéma et de la télévision j'assure donc le secrétariat d'édition, on va dire ça comme ça, hein, et c'est une de mes très vieilles copines qui assure, qui est web maîtresse, donc ça se fait sans le moindre sou, tout ça, bien entendu. Mais il y a suffisamment d'engagement dans ce milieu pour que tout le monde puisse écrire sans se sentir exploité, parce qu'on défend des convictions, quoi. Hein, voilà, donc ça, c'est effectivement la bonne nouvelle.
T'as vu cette pub? Alors, Célia, en l'occurrence, ça me renvoie aussi quand même à des choses que vous dites dans vos travaux sur cette réception web, sur le web 2.0, etc. L'un des points que vous avez abordé tout à l'heure, c'est cette idée que cette réception sur le web, en l'occurrence, vient mettre en branle, à mal, le monopole interprétatif des industries culturelles et des professionnels. Alors, justement, c'est quel type de critique qui se déploie? Enfin, vous, qu'est-ce que vous voyez à l'œuvre justement? Comment ça marche en fait, cette production d'un nouveau type d'interprétation?
Ce qui était assez visible, c'est que les premiers blogs un peu influents ou les premiers forums ou sites participatifs influents étaient en général tous axés sur un axe. Donc, par exemple, comme Le Genre et l'écran, le féminisme. Puis plus assez développé, parce que aussi chaque axe, chaque identité ou chaque nouvelle modalité d'évaluation a aussi été validée et a été partagée par d'autres sites. Plus chaque site plus ou moins été amené à évoluer et à être plus proche d'une approche intersectionnelle où on n'est pas là pour uniquement parler en tant que femme ou parler en tant qu'LGBT, parler en tant que noire par exemple, mais il y a aussi cette idée que je trouve vraiment plus Internet a pris de la force, plus il y a eu cette capacité à mobiliser aussi plus de diversité et à rendre la diversité aussi plus solidaire. Et moins excluante, parce qu'il y a aussi beaucoup, notamment il y a beaucoup de difficultés entre les sites de féminisme blanc et d'afroféminisme qui sont un peu les deux grands pans, par exemple pour le féminisme qui s'oppose notamment aux États-Unis. En France, on commence à avoir une réception afroféministe, notamment avec Amandine Gay, etc., qui commence un peu à se développer, mais qui reste encore un peu minoritaire. Du coup, il y a un peu aussi cette idée-là. Progressivement, le web a permis de montrer que ce qui était déjà essentiellement institués comme des minorités, des publics qui doivent être un peu mis sur le côté, ont pris le pouvoir et en plus ont pu montrer qu'entre eux, il y a une forme de solidarité qui a permis de faire grandir aussi les pouvoirs. Aujourd'hui, notamment, certains sites féministes ne sont pas uniquement administrés ou écrits par des femmes, mais aussi sont alimentés par des hommes qui viennent plus modestement, en général de façon un peu plus invisible, pour pas être pointés du doigt comme potentiellement les privilégiés qui viennent un peu comme ça ramener le dominant qui était un petit peu critiqué. Mais il y a déjà cette capacité-là à montrer que la diversité peut, un, maintenir sa différence sans la rendre invisible, sans l'atténuer, parce que ça y est, on sait ce qu'est le féminisme, donc bon, ça ne sert plus à rien de le crier très très fort, par exemple. Et deuxièmement, cette capacité à montrer que l'égalité aussi du public, c'est aussi une façon de montrer que les minorités, elles s'entendent entre elles, et qu'on peut être à égalité sans effacer sa différence, sans effacer aussi ses différents modes d'évaluation, notamment sur certains blogs féministes aux États-Unis. Certaines journalistes ou certaines blogueuses ne s'entendent pas ou ne sont pas d'accord, mais on laisse la parole aussi à, sur le même film, un contre-discours ou un discours pluriel, où elles-mêmes mettent assez explicitement en avant leur fragilité de discours, leur difficulté des fois à se positionner. Enfin, c'est assez visible sur le féminisme où certaines admettent que bon, oui, on a aimé quelque chose qui normalement n'est pas vraiment féministe. Est-ce que je peux l'assumer sans que ça me délégitime aussi parce que c'est devenu leur nouveau pouvoir, entre guillemets, est-ce que je peux l'assumer ? Et donc, il y a aussi ce rapport-là de discuter au sein de ce type de site sur ce qui peut aussi poser problème, faire moins peur. Et ce qui est aussi assez visible, c'est cette capacité à essayer de transmettre les outils pour un public peut-être plus jeune, moins armé, qui n'est pas allé, par exemple, à l'université ou qui n'a pas fait des études de genre ou des études plus culturelles à la fac. Il y a aussi cette capacité à présenter aussi de nouvelles modalités de lecture ou de critique qui doit être, et c'est assez visible du coup sur le site de Geneviève, où l'idée c'était aussi de rendre notamment le féminisme plus accessible, sans être par exemple trop jargonnant, trop universitaire, etc. Mais il y a aussi cette capacité à montrer que on ne veut pas justement recréer une forme d'expertise excluante, qui est très visible dans la critique professionnelle. Là, au contraire, on peut être très précis, on peut garder une différence ou des nouveaux modes de critique, mais on veut le démocratiser pour justement arriver à élargir cette question-là. Si vous ne savez pas encore tellement ce qu'est une critique féministe, bah, on va aussi vous le montrer sur des cas d'études ou sur, par exemple, des articles qui sont plus généraux. Qu'est-ce qu'une critique féministe ou qu'est-ce qu'une critique afroféministe, comment on peut mobiliser la question du queer ou la question LGBT dans des films qui ne sont pas sur des gays ou qui ne sont pas pour un public gay, par exemple, qui est assez visible aux États-Unis aussi, comment on permet aussi de donner aussi cette nouvelle capacité critique hors des facs ou hors des livres universitaires. Enfin, par exemple, en France, je pense que la majorité d'entre nous ne vont pas aller lire des livres en anglais sur ce qu'est la critique féministe, LGBT, queer, etc. Et donc, Internet a permis ça, a permis aussi de démocratiser des outils de critique différents qui étaient invisible par la presse ou par l'institution universitaire, invisible. Et là, on le démocratise. Il n'y a pas besoin d'appartenir à une communauté très spécifique. Et on peut, je pense que c'est ce qui dérange aussi, mais on peut du coup arriver à prendre des nouveaux outils et arriver à montrer que le public critique différemment aujourd'hui.
Alors, c'est très intéressant. Ça pose aussi la question des réactions. De fait, Geneviève en parlait aussi sur Genre et Média, mais j'ai envie de me tourner d'abord vers Alice. En gros, c'est quoi aussi les types de réactions, justement, quand il y a une action de la barbe, quand vous réussissez, en plus, de fait, à faire en sorte que Polanski ne soit pas président des Césars, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ou qu'est-ce que ça produit comme type de réaction des publics, justement, de ce monde-là?
Là encore, transition toute trouvée avec la dernière phrase autour de la question du pouvoir, pour bien comprendre ça. Parce que c'est pas juste, quand on a une critique féministe là-dessus, c'est pas juste une histoire de domination masculine. Ce qu'on attaque, c'est une structure de pouvoir, en fait. Le problème, c'est de mettre en cause des privilèges et un monopole de ce qu'est le pouvoir de décider, de produire, d'avoir accès à la création. Donc c'est ça qui coince très fortement. Et évidemment, tout cela étant permis par effectivement le financement de tout ça. Et donc là, ça grince énormément. Alors, les réactions, tout à l'heure, ça c'est un point de vue, que ce soit pour Polanski ou pour Cannes, Je note effectivement, si on veut faire un éventail de réactions tout à l'heure, vous en avez toutes les deux un peu donné des exemples, au travers de femmes notamment. Moi j'ai un principe, mais sur lequel j'ai de plus en plus de mal à tenir, à quel point c'est terrible, c'est que j'essaye de jamais attaquer une autre femme en public, même si elle dit des choses épouvantables, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Donc même sur Eugénie Bastier, j'essaye de ne rien dire, j'essaye de me taire. Et parce que malheureusement, non mais parce que c'est vrai qu'on voit que souvent, c'est les vecteurs finalement aussi, c'est d'autant plus terrible évidemment, parce que c'est très, c'est très vicieux, parce que c'est compliqué de ça rend les choses inattaquables, et je le vois en action de la barbe par exemple. Quand je vais vous donner des exemples très concrets, on monte sur scène, quelle que soit l'institution, qui est-ce qui vient, les premières personnes qui viennent nous voir pour nous dire non mais moi je fais partie de l'organisation et vous avez tort, vous savez ça se passe très bien ici, ce sont des femmes. Donc le piège il est énorme en fait d'aller et qu'évidemment en fait c'est pas les femmes le problème, c'est, enfin pour moi c'est jamais vraiment les femmes le problème, c'est évidemment à la tête de tout ça se trouvent des hommes, enfin tels qu'on a construit les hommes. Je ne suis pas en train de faire un truc d'essentialisation, mais en tout cas, il y a cette dominance-là. Et pourtant, on le voit très spontanément, on va penser, et moi, la première aussi, à des noms plutôt d'actrices. Et si je pensais à Polanski, je pense encore à deux jours à une actrice extrêmement célèbre française qui a pris la défense, qui doit être l'actrice la plus célèbre française qui a pris la défense de Polanski. Et qu'au moment de Polanski, ça a été des femmes qui sont montées au créneau de manière épouvantable en plus. Mais, donc ça, c'est les premières réactions, c'est-à-dire que très intéressant de voir que attaquer, on en voit en première ligne, évidemment, parce que tout ça est tout à fait calculé, c'est pas que tout un coup, ça soit des femmes qui prennent la parole. On en voit en premier rang celles qui seraient les plus inattaquables pour essayer de dire eh ben, vous voyez, démerdez-vous entre vous, là, vous voyez que tout le monde pense pas comme vous. Très bien. Évidemment, si on attaque un peu plus, après, on va quand même avoir les réactions des hommes. Je pense à Polanski, mais c'est extrêmement violent quand ça s'est passé. Un des producteurs les plus connus, Vincent Maraval, a produit justement, on parlait des réseaux sociaux, un tweet où il disait les petites pleureuses, sachez qu'on vous emmerde. Et que des tweets de cet acabit, c'est-à-dire qu'il y a une grosse, grosse violence. Ça rigole pas du tout, en fait, quand on s'attaque à eux. Et de même que quand. La violence physique, alors nous on l'a expérimenté plusieurs fois en action de la barbe, cette violence physique-là. Le patriarcat se remet très, 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 très vite en ordre de marche et en retrouvant des réflexes très, très, très anciens qui ont depuis été un peu policés dans la façon dont le pouvoir a été pris, mais qui peuvent se remobiliser extrêmement rapidement. Et c'est précisément nous ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué avec le cinéma parce qu'on fait les festivals et tout ça, mais ça a été qu'on avait réussi à monter sur les marches, mais c'est pas toujours facile. Les Césars, on a passé des années à essayer d'organiser une action sur la scène des Césars. Un des problèmes français aussi est qu'on a extrêmement peu de relais au sein de l'entertainment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture qui mêle showbiz, entertainment et militantisme politique. Contrairement à ce qui se passe en France, je sais qu'avec l'association des journalistes aux États-Unis, merci, l'association des journalistes LGBT, on monte un gala fin juin sur le modèle de ce qui s'appelle les GLAAD Awards, et qui mêle justement le monde de l'entertainment, des showbiz, des personnalités extrêmement connues qui viennent sur scène récompenser celles et ceux qui œuvrent pour défendre les minorités. Et que ça, là-dessus, on n'a rien, en fait. Et donc, on n'a pas de relais. Nous, quand on demande, on n'a pas de personnes qui vont nous dire contrairement à d'autres milieux, par exemple celui de l'entreprise, où je vous assure qu'il y a des gens extrêmement connus, des femmes très 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 puissantes du milieu de l'entreprise qui nous écrivent à la barbe pour dire « si vous voulez, telle place, j'ai les tickets, je vous fais entrer, tel conseil d'administration, vous pouvez ». Dans le milieu du cinéma, mais réellement, je n'ai jamais vu un milieu qui se tenait, enfin, où ça se tenait autant, et que les histoires de la grande famille du cinéma, c'est extrêmement compliqué, la réaction est très forte, et surtout pas de brèche en interne. Et je le dis pour avoir passé des semaines à appeler beaucoup de gens, c'était il y a 2013 au César, il y avait catégorie meilleur réalisateur que des hommes, meilleure réalisation que des hommes, catégorie meilleur film que des hommes réalisateurs, et on s'était dit, il faut faire quelque chose, c'est pas possible en fait. Des coups de fil, beaucoup de contacts, ça, personne n'a voulu s'engager, absolument personne pour nous filer des invites, des choses et tout ça, ça se comme jamais. Donc c'est pour dire que la réaction effectivement, elle est puissante et on vise à garder le milieu vraiment, à conserver de plus en plus longtemps son pouvoir, même si moi je suis tout à fait optimiste que ça va finir par se craqueler et que c'est déjà le cas. La récente décision, ce qui s'est passé au moment de Polanski et les Césars, était pour moi un excellent signe là-dessus.
Eh ben,
pour le coup, on va bientôt passer la parole au public. Juste une dernière petite question, peut-être quand même en rebond de ce que vient dire Alice à Geneviève et Célia. Célia, moi, la question que je me posais, c'est en gros, est-ce que cette critique, enfin, cette réception sur Internet réussit véritablement à déplacer, en fait, cette interprétation, ce monopole interprétatif ? En gros, c'est quoi l'impact réel, j'ai envie de dire, à une échelle, si on prend un peu de hauteur, c'est effectivement, est-ce que ce sont des choses qui restent finalement dans une sorte de flux et ça disparaît tout aussi vite que c'est apparu, ou est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a vraiment une transformation un peu de fond, en fait, qui se passe derrière tout ça ?
Honnêtement, je pense vraiment qu'il y a une transformation qui se fait, qui est vraiment très radicale, ne serait-ce que de regarder sur la majorité des blogs, des sites participatifs ou des forums les plus influents aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est quasi exclusivement ce type de contre-réception, exclusivement. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, mais un certain nombre de journalistes journalistes proto-professionnels à l'époque qui travaillaient sur les blogs, ont pour certaines ou pour certains hommes, notamment racialisés, etc., ont été ensuite embauchés par des très très grands groupes de presse, notamment le New York Times, a fait un appel d'offres cet été pour justement changer aussi son groupe, son pool de journalistes, et un certain nombre de journalistes, notamment de Beach Media, Jezebel, etc., ont été repris, réembauchés ensuite par le New York Times. Donc je pense que ça prouve aussi cette volonté de la presse professionnelle de comprendre que bon, il se passe quand même quelque chose de très important. Je pense que si on le voit pour nous en France, par exemple, le champ quand même de la critique de séries ou télé ou au cinéma change aussi, le paysage critique change en termes de blog, etc. Notamment, je pense, à Libération, je parlais avec une des journalistes, Clémentine Gallo, qui m'expliquait que, voilà, elle faisait partie des jeunes journalistes un peu explicitement féministes. Et que clairement, elle a été aussi recrutée par Libération parce qu'il y avait cette volonté peut-être d'être un petit peu dans le public facile, faire plaisir, etc. Mais il n'empêche que ça lui a donné la capacité comme ça d'intervenir dans un très grand journal. Et je pense que c'est grâce à Internet, parce que aussi sur Internet, on comprend que c'est aussi ce qui plaît le plus, ce qui est le plus lu, qui est le plus retweeté, qui est le plus liké sur Facebook, etc. Que ça change aussi au niveau vraiment de la critique institutionnelle. Et la deuxième chose qui me laisse penser quand même que ce contre-pouvoir est extrêmement important, c'est que ça change aussi le contenu réellement des films et des séries. Je pense que c'est plus visible dans les séries, par exemple, où il suffit de voir, je vais donner deux courts exemples, par exemple sur Netflix, qui est calculé à partir d'un certain nombre d'algorithmes, où en fait on regarde ce qui a plu, qu'est-ce que le public sélectionne comme contenu, comme documentaire, série ou film, et à mesure du coup qu'on prend comme ça espèce de stock de ce que le public a aimé ou n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on a regardé, combien de temps on l'a regardé, etc., Netflix du coup crée des algorithmes pour créer du contenu original, et notamment sur la série Orange is the New Black, c'est une série qui a été créée grâce à ce type d'algorithme. En fait, on a repéré que les gens aimaient beaucoup le contenu lié aux prisons, le contenu lié aux femmes et le contenu lié à la dimension LGBT. Du coup, on s'est dit, bon, bah, bingo, on va faire une série dans une prison avec des femmes, quasi tous exclusivement sur un spectre LGBT. Et c'est clairement visible. Alors, c'est facile pour eux parce qu'ils se font de l'argent, mais ça a permis quand même au nouveau goût du public comme ça d'être explicite, d'être entendu et de modifier aussi le contenu. Un autre exemple, c'est la façon dont les séries aussi changent selon les saisons. En général, une série passe après 3-4 mois de diffusion, ça génère une réception très importante, professionnelle ou plus amatrice, sur ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Et clairement, pour en avoir parlé avec certains amis qui travaillaient ou qui ont travaillé sur certaines séries américaines, clairement, on fait un état des lieux de ce que la presse ou ce que la réception Internet a dit, ce qui a plu ou ce qui n'a pas plu, qu'est-ce qui a fait polémique ou pas polémique, et on réajuste la saison 2, 3, etc. en fonction de ça. Et on attend réellement la réception pour modifier, ce qui fait qu'un certain nombre de séries, je peux vous inviter à voir par exemple la série Girls, où non seulement la réalisatrice a totalement changé son discours parce qu'accusée dans la première saison d'être une femme blanche, très riche, et très du coup dans un modèle quand même très exclusif, On lui a reproché de ne pas avoir des femmes d'une classe différente, de ne pas avoir des femmes non blanches. Et elle a essayé de changer ça aussi dans les saisons suivantes, grâce clairement à Internet. Et là, la saison, la série est en train de se boucler et elle fait beaucoup, beaucoup d'interviews pour expliquer qu'elle remercie réellement le public de lui avoir fait prendre aussi conscience d'une certaine invisibilité qu'elle n'avait pas vue. Enfin, elle était juste contente d'être une femme qui arrive comme ça sur l'une des plus grandes chaînes de séries américaines, donc HBO. Et clairement, le public a eu son mot à dire pour changer le contenu. Tout n'a pas été changé, mais en tout cas, clairement, le public aujourd'hui est extrêmement important pour changer un contenu, qui prouve pour moi vraiment le pouvoir extrêmement important de la contre-critique.
Alors, l'exemple que tu donnes, Célia, il est vraiment intéressant, parce que là aussi, on peut faire une comparaison France-États-Unis, c'est-à-dire qu'un des problèmes qu'on a en France, c'est justement que l'artiste est censé être au-dessus. C'est-à-dire qu'au-dessus des déterminations sociales, et son inspiration, elle est intouchable. Elle vient du ciel, elle est intouchable. Et donc, l'idée que, en particulier, effectivement, dans le 7e art, l'idée que les créateurs puissent s'intéresser aux réactions du public de leurs œuvres et en apprendre quelque chose est une idée totalement étrangère au paysage culturel français. Pas tout à fait. Ça, en fait, ça se fait sans se dire à la télévision. Et pour avoir travaillé aussi sur la fiction télévisée, je peux dire que nous avons été frappés par le fait que, en particulier dans le corpus de téléfilms que nous avons étudié entre 1995 et 2010, avec Noël Birch, nous avons constaté, parce que la télévision est obligée de se préoccuper de son audience et que l'audience de la fiction télévisée est majoritairement féminine, nous avons été extrêmement frappés de constater que la misogynie était extrêmement rare, ou le machisme, était extrêmement rare dans ce type de fiction télévisée. Évidemment, on a, disons, on n'a pas tout vu, mais enfin, statistiquement, par rapport au cinéma, vous savez, par exemple, qu'au cinéma, on a soit le machisme du cinéma populaire, genre Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, soit le machisme de l'élite cultivée, des Pléchins, Sayas et compagnie. On a les deux versions, hein. Il n'y en a pas une pour acheter l'autre, mais on a les deux versions. Eh bien, ces deux versions-là, globalement, elles n'existent pas dans la fiction télévisée française. Si, elles existent dans certaines séries. Mais même les séries, depuis les années 95 à peu près, vous avez sans doute remarqué, alors je sais bien que l'élite cultivée ne regarde pas les séries françaises, mais quand on se donne la peine de les regarder, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a eu des changements fondamentaux du point de vue de la répartition des rôles masculins-féminins depuis les années 90, y compris à TF1, parce que TF1 se préoccupe d'avoir des trucs rentables. Et s'ils veulent avoir la publicité, il faut qu'ils aient du public. Le caractère politiquement positif du poids du public sur les œuvres est un truc qui est absolument impossible à dire en France. En France, on considère que le public, c'est ce qui empêche les artistes de faire des chefs-d'œuvre. Hein? Ce qui nous renvoie à une conception de la société tellement hiérarchisée que quand on en prend conscience, on se dit, on prétend être une démocratie, non mais je rêve. Hein? Bon, eh bien, dans ce contexte français, il y a quand même des lieux où, parce qu'on est obligé de s'occuper de l'audience, parce que les budgets sont liés à la publicité, eh bien, comme par hasard, on a des œuvres, qu'elles soient, certaines sont remarquables, d'autres le sont moins, mais en tout cas, on a des œuvres beaucoup moins sexistes qu'au cinéma, qui se prétend au-dessus du public.
Je voulais juste redonner un dernier exemple. Par exemple, aux États-Unis, c'est assez frappant. On en a beaucoup parlé sur le fait qu'en France, il n'y a pas la place aussi pour la création alternatives. Les femmes ont du mal, clairement, enfin, soyons objectifs, ont du mal à avoir de l'argent de la part du CNC notamment. Enfin, il y a une vraie difficulté à trouver du financement. Aux États-Unis, un certain nombre de chaînes importantes et de festivals aussi ont créé explicitement du coup des, une porte pour aussi de la création alternative. Notamment, c'est assez frappant, mais il y a 2 ans, HBO a lancé, et ça a été renouvelé aussi cette année, a lancé un appel d'offres pour créer une série qui serait faite par, donc c'était dit tel quel, les hommes n'avaient pas le droit de postuler, les blancs n'avaient, alors les hommes blancs pardon n'avaient pas le droit de postuler, les hommes hétérosexuels non plus, c'était pas explicitement dit tel quel, mais ça laissait entendre. Donc sous-entendu, les seules personnes qui pouvaient prétendre du coup à ce financement, donc on accompagnait un jeune créateur depuis l'écriture jusqu'au montage de la série, la diffusion, etc. On voulait donner la place à un jeune créateur ou une jeune créatrice, en tout cas qui serait forcément non, qui ne serait pas un homme blanc hétérosexuel et surtout donner la place à quelqu'un qui n'a pas travaillé dans le milieu professionnel. Ce qui fait que ça a donné, ça a produit la super série de d'Issa Rae que je vous invite à regarder, Insecure, faite du coup par une femme afro-américaine qui était extrêmement connue d'internet pour avoir fait des web-séries, etc., mais du coup qui n'avait jamais été professionnalisée. Et donc ça a permis ça aussi, mais on crée une forme de discrimination positive entre guillemets pour donner directement aussi une place créative au sein de la production et de l'industrie à des gens qui viennent d'une réception en général extrêmement militante et extrêmement activiste et qui ne correspond pas au modèle du public universel dominant.
Merci beaucoup. Alors on a le temps de quelques questions par le public.
Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai une question sur les modalités d'action lorsque des publics politiques contestent une œuvre. En vous écoutant, je pensais à une action particulière qui est assez célèbre plutôt dans les années 90 aux États-Unis, lorsque ce collectif Queer Nation s'en est pris à Basic Instinct de Paul Verhoeven. Alors avec 3 modalités d'action différentes, à la fois ils ont tenté d'interrompre le tournage, il y avait des manifestations quotidiennes sur les lieux de tournage avec utilisation de sirènes, etc., qui faisaient que le tournage était très compliqué. Et puis il y a eu, au moment de la sortie du film, un appel au boycott, et puis une 3e modalité d'action, qui était une pratique de spoiling. En fait, ils et elles collaient sur les affiches « La tueuse est une lesbienne ». Parce qu'évidemment, ce qu'il dénonçait, c'était le sexisme et la lesbophobie qu'il percevait dans le film. Alors j'ai une première question par rapport à ça, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas vu en France ce type de modalité d'action dans le domaine du cinéma. Pourquoi ? Et est-ce que l'émergence de ce nouveau type de critique que vous avez décrit, qui a un fondement, disons, qui trouve son fondement dans la politique des identités, est-ce que cela peut faire émerger ce type de mobilisation ? Et puis j'ai une deuxième question qui est un tout petit peu différente, qui est que, alors moi étant plus jeune que les militants de Queer Nation, moi j'ai eu un rapport à Basic Instinct très différent, c'est-à-dire pour moi c'était plutôt un film qui proposait des modèles d'identification possibles, en tout cas qui faisait émerger un monde lesbien, qui faisait émerger un monde queer, etc. Donc voilà, la question c'est aussi celle de l'ambivalence en fait des mobilisations contre les œuvres qui cristallise aussi un type de lecture là où évidemment y a toujours nécessairement de la diversité.
Je veux bien juste répondre sur la dernière partie, sur cette question-là. Il me semble qu'en plus, c'est le même collectif qui avait fait le même type d'action à l'époque sur le Silence des Agneaux pour protéger aussi la jeune Jodie Foster. On accusait en fait le réalisateur d'être aussi lesbophobe, homophobe, et de la forcer quasi à faire son coming out officiel parce que c'était pas dit tel quel dans le film. Elle incarne du coup une jeune femme quand même extrêmement renfermée sur elle-même, etc. Et donc il y avait un certain nombre de collectifs qui accusaient le réalisateur du coup de ne pas dire explicitement qu'elle était lesbienne dans le film pour la protéger, mais du coup la mettait sur le devant de la scène publique et fragilisait l'actrice également. Et il y a eu le même problème exactement que Basic Instinct, où la réception n'était pas nécessairement d'accord avec les modalités d'action et accusait plutôt aussi un certain nombre de collectifs justement de dire la majorité du public n'aurait pas perçu justement que Jodie Foster était fragilisée. Et on allait très certainement peut-être lui poser la question, alors en fait, est-ce que vous êtes lesbienne ou est-ce que votre personnage est lesbienne? Et du coup, il y a aussi une ambivalence du public qui, comme dans Basic Instinct, mais c'était plus frappant dans Silence des Agneaux parce que ça attaquait en plus la personnalité intime et personnelle du coup de Jodie Foster qui à l'époque ne voulait pas du tout en parler il y avait cette ambivalence du coup entre aussi deux types de réception, entre une réception plutôt militante qui disait mais non justement il faut prendre les armes, il faut explicitement aussi demander à ce qu'on change quitte à aller sur les plateaux etc. Et au contraire une réception plus timide, plus modeste qui en plus à l'époque n'avait pas même pendant Basic Instinct les armes aussi de se protéger sur internet ou la force de parole entre guillemets. Et il y a aussi, du coup, très souvent, mais c'est encore visible aujourd'hui, une espèce de contre-réception qui essaie de dire, bon, on est d'accord sur le fond, mais les modalités d'action plus militantes font peur ou peuvent aussi fragiliser, du coup, les minorités qui devraient être préservées et les mettre sur le devant de la scène alors qu'elles ne l'ont pas forcément demandé, peut aussi les fragiliser si les créateurs ou les actrices, par exemple, ne sont pas armés à se défendre face à ce type de polémique. Et c'est assez visible, du coup... Je pense que tu as des exemples sûrement plus précis.
Je cherchais justement, c'est quoi le nom là de récemment? Il y a eu toute une invisibilisation absolument totale d'une histoire qui a été reformulée en une histoire hétérosexuelle très connue, une danseuse.
Sur la danseuse. Ça s'appelle La Danseuse.
Voilà. Et qui a provoqué effectivement beaucoup de textes, mais alors c'est vrai, pas en amont. C'est-à-dire que pourquoi effectivement le truc. Enfin, moi j'en rêve, hein, envahir un tournage, qu'on soit plein de lesbiennes à venir faire. Très bonne idée, c'est ça que je veux dire. Et après, je pense qu'aussi, ce qui me frappe dans tout ce qui est dit, c'est que c'est quelque chose dans lequel je crois très fort, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore plus invisible qu'une autre minorité, que les lesbiennes sont toujours dans quelque chose aussi, à un point très 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 spécifique de l'effacement, de l'invisibilisation, pour des raisons qui n'ont pas lieu de développer ici, mais c'est assez frappant là, que les exemples qui émergent soient là-dessus, et que je pense que... En France, en tout cas, ailleurs, c'est déjà fait depuis longtemps. Là, en ce moment, quand même, des choses qui sont en train de s'organiser assez fortement de ce point de vue-là et dont on devrait voir les effets prochainement. Mais au-delà, c'est des choses en amont, je pense vraiment, ça a aussi quelque chose à voir avec ce lien-là, cette possibilité d'agir très vite dans l'industrie, quand ça se fait, et d'être au courant de tout ça. C'est ainsi un problème d'ignorance et de fermeture entre les milieux de production culturelle et le milieu militant, qui est beaucoup moins grand aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de liens, de gens qui peuvent mettre au courant, c'est tout bête. Quoi. Voilà, c'est pour ça que moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et on aurait besoin énormément de relais qui nous disent... Enfin, c'est le principal truc pour les militantes et militants, c'est de nous dire, tenez-nous au courant, dites-nous, vous savez qu'il y a un tel tournage, vous avez vu se passer ce scénario-là et que ça va se tourner et ça se passe comme ça, et c'est maintenant qu'il faut agir, effectivement. On n'est pas au courant, enfin, la plupart du temps, on n'est pas du tout au courant de... Et ça pose vraiment un problème, il faut vraiment travailler au rapprochement entre ces deux sphères.
Oui, alors, pour l'instant, en France, on en est... là, j'en parle parce que ça, c'est en ce moment... On en est à faire des pétitions pour exiger que les commissions d'attribution des aides publiques soient paritaires, par exemple. On le demande, ça n'est pas du tout acquis. Et ça ne. Bon, après, il faut espérer qu'une dynamique se mette en place, etc. Mais. Comme disait Alice, le problème après, c'est cette espèce d'entre-soi du milieu du cinéma qui est absolument terrifiant et qui fait que les femmes sont les plus efficaces dans la préservation des privilèges masculins. Quoi. Moi, ce que je vois dans la phase actuelle, c'est effectivement faire jouer à fond les réseaux sociaux, essayer de mettre en place un vrai réseau qui ait une capacité de réaction, etc., relativement visible, quoi. Et après, parce que aussi cette existence des aides publiques est une spécificité française, à la fois sur le cinéma et sur la télévision. Alors justement, par exemple, sur la télévision, le Haut Conseil à l'égalité a constitué une commission pour essayer d'agir en amont. Et donc, par exemple, une des choses qu'on essaie de demander, c'est que dans ces commissions qui donnent des aides publiques, que ce soit à la télévision ou au cinéma, soit pris en compte de manière privilégiée des scénarios non sexistes. Mais vraiment, c'est pas demain que ça va arriver. Hein. Mais voilà, là pour l'instant, nos angles d'action, c'est plutôt ça. C'est donc en amont essayer d'obtenir que les commissions fonctionnent de manière un peu plus paritaire. Et en aval, essayer de faire jouer une capacité de boycott, j'appellerais ça comme ça, ou une capacité de soutenir les films qui nous semblent intéressants à travers cette critique alternative sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, voilà, c'est modeste. Hein.
Je pense qu'il y a une différence aussi où la vision française aussi du militantisme ou de l'activisme est aussi perçue comme constamment une agression. Les femmes, le féminisme en général, même le féminisme non militant, est perçu comme agressif, contrairement notamment si on en revient sur la comparaison aux États-Unis, où ça paraît plus normalisé. Alors, ils n'ont pas non plus une immense force de frappe, mais en France, je pense qu'il y a aussi le discours public sur le militantisme est perçu comme c'est trop agressif. Est-ce qu'on est obligé d'aller sur un plateau, par exemple? Ce serait très très mal perçu, je pense, en France, si on débarquait sur un plateau qui est le lieu privilégié, il faut pas rentrer, enfin les gens travaillent après tout, donc pourquoi on va les déranger au travail? Ou c'est même assez visible même sur les entreprises, ou aux États-Unis au moins, en tout cas depuis Michael Moore, c'est tout à fait normal qu'on en fasse même un spectacle, de débarquer dans une entreprise, de foutre un peu le bordel comme ça. En France, c'est mal perçu parce qu'on travaille, c'est sérieux, le militantisme c'est bien, mais si on parle un peu à côté, mais si on essaye un peu d'agir, on est forcément, enfin c'est très visible sur les femmes, tout ce qui peut être dit dans la presse et les médias sur le militantisme féminisme est assez horrifiant quand même.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ?
Oui, merci pour le débat. Et j'avais une question sur un public mobilisé que je trouve particulièrement sympathique. C'est les publics qui font de la fin-fiction ou de la slash-fiction, ou en tout cas qui reprennent toute une histoire cinématographique ou de série télé et qui créent des univers parallèles en partant des personnages et en inventant des histoires qui leur rassemblent plus de ce qu'il y a d'habitude dans le film ou dans la série. Et ma question était sur ça, c'est-à-dire est-ce que parce qu'en plus le problème que ça pose, c'est évidemment des problèmes de droit d'auteur, c'est-à-dire qu'après on ne peut évidemment pas utiliser ou sortir des histoires qui ont été fabriquées de cette manière-là. Donc, en fait, la question était public mobilisé ou public engagé. C'est surtout aussi une question économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un droit d'auteur qui enlève, en quelque sorte, le pouvoir d'action sur la production, ça devient très difficile de pouvoir remettre en question. Évidemment, ça peut se faire de manière culturelle, mais est-ce que le fait justement d'enlever ou de baisser un peu cette notion de hauteur, ça ne serait pas aussi un moyen de redonner un tout petit peu de pouvoir au public ?
Sur la question de la fanfiction, je pense qu'il y a un peu de camps qui s'opposent. Je pense qu'aux États-Unis, on a vraiment compris. En France, la fanfiction, elle peine quand même à s'imposer. Ça reste un mouvement assez minoritaire. Aux États-Unis, c'est un mouvement qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus actif, beaucoup plus créatif. Enfin, il y a énormément de sites participatifs où on crée de la fanfiction ou des séries inspiré aussi de fanfiction. L'industrie a deux rapports très différents aux fanfiction. Ça peut être, par exemple, Star Wars, où George Lucas est extrêmement réfractaire par rapport aux fanfiction. Attaque assez systématiquement les fans qui font de la fanfiction à partir de Star Wars. Les traîne en justice, alors que, bon, on s'en doute qu'évidemment, ils ne pourront pas payer grand-chose en termes de procès. Mais il y a ce premier camp qui est très minoritaire et qui est très très mal perçu, au point que le public est très énervé face à George Lucas, y compris les très grands fans de Star Wars, sont constamment énervés et sont les premiers à reléguer justement cette invisibilité des procès que fait George Lucas par rapport aux fans. Mais le contre-exemple qui est beaucoup plus dominant aujourd'hui, par exemple Le Seigneur des Anneaux, où le réalisateur au contraire a a poussé les fans aussi à créer de la fanfiction en leur disant très clairement ce qui me plaira le plus sera aussi réintégré sur le scénario pour les prochains. Et les DVD contiennent aux États-Unis un certain nombre de fanfilms, de courts-métrages comme ça, de fanfilms. Et c'était pareil avec Twilight aussi, qui est clairement né en plus de la fanfiction. Où on a mis en avant cette force créative, où effectivement, je pense que c'est plus visible dans un cinéma très mainstream qui effectivement n'a pas peur de la notion de l'auteur, où l'auteur n'est pas diminué par cette idée qu'on peut co-construire un univers et que le fan a aussi son mot à dire. C'est très visible sur les séries aussi, où les fanfictions ou alors toute la génération des théories alternatives sur qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou qu'est-ce qui n'a pas été clairement dit, j'invente un nouveau monde ou une suite à la saison suivante, est très pris en compte par les créateurs qui comprennent aussi par là le désir du public et ce que le public a interprété ou pas. Ça devient aussi une force créative importante. Je pense que le peu d'auteurs qui sont trop frileux et qui justement brandissent le droit d'auteur comme quelque chose qui préserve aussi leur œuvre sont très très mal perçus aux États-Unis par rapport à ça. À part George Lucas, il y a très très peu de cas où on attaque les fans pour justement ne pas respecter le droit d'auteur. Enfin, c'est visible, il y a beaucoup de DVD. Enfin, je vous invite à voir Michel Gondry pour ses films suédois ou même Tarantino qui avait fait un concours avec Boulevard de la Mort et toute la série comme ça où on invite les fans à faire de la fanfiction et on les met après dans les DVD. Ça plaît aussi aux fans. Et où là, je pense quand même que les fans sont plutôt célébrés pour ça maintenant.
Mais pas en France, il n'y a pas l'équivalent en France. Mais non. Même du point de vue du droit d'auteur, comment ça se passe en France?
En France, je crois qu'on n'attaque pas non plus. Enfin, le droit d'auteur préserve clairement les droits comme aux États-Unis, mais on laisse faire, on n'attaque pas. Enfin, je pense que ce serait très, très mal perçu aussi. Mais on est autant protégé en France qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, bon, on ne brandit pas ça pour attaquer les fans, justement. Je pense qu'on laisse les fans et qu'en plus, après, on puise ce qu'on a envie de puiser. C'est une force de création quand même très gratuite qu'on n'a pas besoin de payer et qui peut effectivement écrire la suite d'un épisode, etc. Donc, on serait même en France, je pense qu'on ne va pas attaquer. Ça permet quand même de créer de la main-d'œuvre facile et gratuite.
Ce qui est bien l'ambivalence des fans, en l'occurrence. C'est toute la production d'un travail gratuit quand même aussi à côté. Merci beaucoup à toutes les trois. On va devoir conclure cette table ronde. Merci d'applaudir nos intervenantes qui ont été brillantes aujourd'hui.